L'antitsiganisme est une forme de racisme spécifique qui vise les communautés roms, manouches, sintes, calais ou yéniches, qu'on peut plus généralement désigner comme communautés de voyageurs, et qui s'inscrit dans une histoire longue en Europe. Il ne se limite pas à des préjugés ou à des insultes. Il s'exprime à travers des politiques et des pratiques concrètes comme des expulsions répétées, les contrôles policiers ciblés, les difficultés d'accès au logement, à l'école ou aux soins, ou encore le placement des enfants. Une de ses particularités est de maintenir les personnes concernées dans une instabilité permanente, les empêchant de s'ancrer durablement pour celles qui le souhaitent. Les conditions de vie sont souvent indignes dans des lieux insalubres et pollués. Une situation qui n'est pas subie par hasard, mais organisée par le manque volontaire d'infrastructures et de solutions d'accueil. C'est aussi un racisme largement banalisé, encore toléré dans les discours publics, et les personnes sont perçues comme illégitimes ou suspectes par défaut. Et en même temps, leur lutte et les violences qu'elles subissent restent peu visibles. L'antitsiganisme fonctionne ainsi comme un racisme structurel qui organise la marginalisation de populations entières tout en rendant ces violences socialement acceptables.
Richie Thibault, bonjour et merci d'être avec nous. Je voulais savoir en fait, quand on parle d'antitsiganisme, de quoi on parle exactement ?
Quand on parle d'antitsiganisme, on parle d'un racisme et plus largement d'un système de domination qui frappe les collectifs romani et voyageurs qui sont d'une grande diversité en France, à savoir les Roms, les Gitans, les Sinti, les Manouches, les Yéniches et les voyageurs qui ont des groupes aux histoires parfois communes mais aussi extrêmement distinctes et singulières que l'État français a souvent chercher à ranger sous une étiquette administrative, des étiquettes administratives racialisantes, comme nomade, avec la loi de 1912, puis gens du voyage, à partir de 1969, mais aussi plus globalement que les sociétés, les États-nations européens, ainsi que les mondes scientifiques, ont rangé sous l'étiquette unique de tzigane. Il y a eu la construction, au fil de l'histoire, de la catégorie tzigane, et je dirais même de la figure du tzigane qui fait peur, qui incarne un contre-modèle et qu'il faut donc en conséquence dompter et contrôler. Et très concrètement, l'antitsiganisme aujourd'hui, il a de multiples manifestations dans notre société. Moi, je suis voyageur, ma mère est gitane, mon père est manouche, et depuis mon enfance, depuis mon plus jeune âge, j'ai subi dans ma chair, avec les miens, les conséquences et les sévices de cet anti-tsiganisme qui se décline à travers toutes les institutions de l'État. Et l'État français mène une guerre sans merci, en particulier aux voyageurs et voyageuses, qui se traduit par un continuum de violence et d'enfermement qui a des conséquences dramatiques chez de nombreuses et nombreuses familles, y compris dans votre région, à Toulouse.
Et justement, tu pourrais nous raconter une situation qui te semble révélatrice de cette tension, puisque toi, tu l'as vécue de manière incarnée. Là, tu as amené même l'idée de violence sur les corps. Est-ce que tu as une anecdote de ta propre histoire ?
Déjà, il faut dire qu'à travers l'histoire, la France, disons-le ainsi, a une histoire d'antitsiganisme particulièrement chargée. Et il me semble que le paroxysme de la violence antitsigane en France a été atteint durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque trois régimes politiques successifs en France, à savoir le dernier gouvernement de la Troisième République d'Albert Lebrun, le régime de Vichy, connu sous le nom État français, et le gouvernement provisoire de la République française, dont étaient membres des communistes, ont mené une politique commune qui, à mon sens, s'apparente à un processus génocidaire, en enfermant dans une soixantaine de structures concentrationnaires les Roms, les Manouches, les Gitans, les Sinti, les Yéniches et les voyageurs, en les assignant à résidence, tout cela entre 1939 et 1946. La dernière personne à sortir d'un camp d'internement ou de concentration, comme ils étaient d'ailleurs appelés à l'époque en France, le dernier manouche à sortir, c'était le 1er juin 1946, au camp des Alliés près d'Angoulême, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc, très concrètement, durant cette période-là, de la Seconde Guerre mondiale, avant le début des hostilités et largement après la libération, 2 ans après la libération, l'État français, sous des régimes politiques successifs, a enfermé les nôtres, moi, mes ancêtres, mon arrière-grand-mère, Maria Azaïs, du côté paternel, a été enfermée dans le camp de Jargeau. D'autres encore de mes arrière-grands-parents, toujours du côté paternel, ont été assignés à résidence en Dordogne. Du côté maternel, de nombreuses personnes de la famille de ma grand-mère ont été enfermées dans le camp de Mérignac, en Gironde, près de Bordeaux. Sa mère avait réussi à louer une maison et à se cacher pour éviter d'être arrêtée, elle aussi, et conduite avec sa famille dans ce camp de concentration de Mérignac. Et du côté de mon grand-père maternel, un certain nombre de gens de sa famille ont été fusillés en Gironde ou en Dordogne durant cette période-là. Toutes ces personnes-là, dans ma famille, ont subi ces persécutions parce qu'ils étaient catégorisés par l'État français comme nomades, parce que c'était des personnes romanies voyageuses. Et très concrètement, dans les camps français, dans ce système concentrationnaire au niveau national, tant en zone occupée qu'en zone prétendument libre, les gens étaient en train de mourir à petit feu. L'État a organisé une mort lente et assurée pour ces gens-là, qui étaient exposés à la faim, au froid, aux maladies. Donc la mort était organisée de manière systémique et systématique. Les gens étaient condamnés à une mort lente dans ces camps. Et par ailleurs, il y avait des châtiments corporels infligés aux gens, des tortures, de nombreuses sévices, ainsi que des placements d'enfants qui étaient arrachés à leur famille de manière là aussi assez systémique. Donc c'est bel et bien un génocide qu'il y a eu à l'encontre des nomades, des Roms, des Sinti, des Manouches, des Gitans, des Yéniches et des voyageurs entre 1939 et 1946 en France, dans le même temps que le génocide des Roms et des voyageurs à l'échelle européenne, qui a fait quant à lui 500 000 victimes, 500 000 morts.
Alors Marie, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, je suis Chartier Maria Néboni. Je suis née le 17 mars 38.
Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vécu pendant la guerre?
Oh ben, avec mes parents, on a traîné la misère. Nous, quand on était à Bourges, on est venu nous chercher pour nous mettre dans les camps, dans des camions ben, prêts à nous jeter à la poubelle. Arrivé dans le...
Et c'était quoi à Rivesalt?
Ben, c'était des baraquements, des fils de fer barbelés. Comment je veux dire? On était dans les camps, on nous donnait à manger du pain sec, ou soit quand ils donnaient des pommes de terre, ils nous donnaient des pommes de terre avec des pluches. Ben, cuites, à l'eau, on n'avait pas le droit de sortir. Ben, mon frère, il a vécu pas mal de choses. Il a été attrapé et puis attaché à un poteau parce qu'il a essayé de s'évader presque toute la journée. Et ben, il l'a attaché à un poteau, puis il l'a laissé au soleil. Puis avec une cravache, il l'a tapé. Ils ont tapé dans les reins avec eux. Ils l'ont mis torse nu, du moins. Ben moi, il fallait que je regarde avec mes parents, oui. On n'avait rien le droit de dire. C'était dur, mais il fallait le faire. Même des jeunes, il y a des jeunes qui sont morts là-bas. Ah ben, c'était dur, hein. C'était pas de la crème. De ça, ils n'en parlent pas, hein. Personne n'en parle.
Ça te met en colère?
Ben ouais. Il y a de quoi.
Tu serais soulagé que ce soit reconnu?
Oui.
T'aimerais bien le voir?
Oui.
Et donc on se retrouve le 16 mai à Paris alors?
Oui.
Pour obliger les députés à voter la loi?
Oui. Je l'espère qu'il y en aura beaucoup.
Toi, tu leur dirais quoi à tous ces jeunes? Tu leur dirais de faire quoi?
Ben de rassembler et puis de faire marcher l'affaire. Je serais content de le voir, ça qu'on a passé. moi je serais soulagée.
Donc je pense que ça, c'est déjà assez éloquent quant à la responsabilité de l'État français, mais si on veut parler de ce racisme de manière contemporaine, effectivement, je l'ai pour ma part subi dès le plus jeune âge, et je pense qu'un des moments les plus dramatiques, les plus durs, a été lorsque j'avais 9 ans en 2013, de voir un des meilleurs amis de mon père, que je considérais comme un oncle, qu'il considérait comme un frère, qui s'appelait Daniel Pouvi, et qui a été à Biscarros, tué par balle par des militaires de la gendarmerie. Une artère a été touchée par les tirs des gendarmes et ça lui a été fatal. Alors qu'il avait encore plus la trentaine. Et donc ça, à l'époque, ça a été pour moi un véritable drame que je n'avais pas conscientisé politiquement à l'époque parce que je n'avais pas les outils pour le faire, bien que je considère aujourd'hui que ce soit vraiment ma première indignation politique. Et ces violences-là, on les vit très tôt quand on est voyageur. On voit chez nous débarquer des unités de police qui, normalement, interviennent, de police et de gendarmerie, considérées comme des unités d'élite qui, normalement, interviennent dans le cadre d'affaires terroristes, de pratiques d'intervention antiterroriste, qui interviennent chez nous dans le cadre d'affaires banales et de perquisitions de police. Et donc, il y a vraiment, au sommet de l'État, une politique qui est organisée de racisme et de discrimination systématique des voyageurs et systémique, institutionnelle, structurelle, pouvons même nous dire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais que toutes les familles de voyageurs et de voyageuses vivent aussi.
Quoi est-ce que, selon toi, la reconnaissance, comme tu viens de l'évoquer, du génocide des Roms, Sinti, Manou, Gitans, Yéniches et voyageurs, tout comme en fait l'anti-diganisme, reste aussi peu reconnu en France? Et également, pourquoi c'est important de nommer ce racisme-là spécifiquement?
Alors, sur le génocide, ce qui est quand même important à saisir, c'est que la République française ne reconnaît à l'heure actuelle toujours pas sa responsabilité dans ce dernier, alors qu'elle est particulièrement étayée sur le plan historique. Et les choses commencent assez tôt, dès 1912, avec la mise en place de la catégorie racialisante et administrative nomade, dans laquelle vont être assignées et enfermées les personnes romanies et voyageuses, qui va contenir un certain nombre de contraintes extrêmement attentatoires aux droits et à la dignité, et va être corrélée à cette catégorie tout un système particulièrement bien huilé de surveillance au sommet de l'État, organisé méticuleusement par le ministère de l'Intérieur, des populations romanes voyageuses, des gens que l'on va faire entrer, que l'État va faire entrer dans cette catégorie, auront l'obligation, et c'est le cas de nombre de mes ancêtres, de porter des carnets anthropométriques. Et il faut savoir que ces carnets sont basés sur le modèle de l'anthropométrie judiciaire, c'est-à-dire que l'État traite un pan entier de la population comme criminel du simple fait qu'il soit catégorisé comme nomade, c'est-à-dire que les personnes concernées soient romanie et voyageuse, ce système-là, extrêmement contraignant, va être la première des bases de l'arsenal anti-nomade dont va se servir par la suite la République pour perpétrer un génocide à l'égard de mes ancêtres et des personnes romanies et voyageuses en France entre 1939 et 1946. Et il y a, en ce qui concerne ce génocide, un déni absolu. Un déni absolu, alors que les faits historiques sont durs, sont étayés, sont éloquents. Il y a malgré tout un refus catégorique de la République de reconnaître sa responsabilité, qui s'explique assez simplement par le fait que la République continue le processus de persécution abominable des voyageurs. Elle continue ce processus. Et à défaut d'avoir exterminé physiquement les personnes romanies voyageuses, elle souhaite anéantir symboliquement les inscriptions romanies voyageuses dans le temps et dans l'espace, à savoir faire disparaître les voyageurs et voyageuses du paysage, avec un processus après le génocide que l'on peut qualifier et qui est toujours encore de processus ethnocidaire. C'est-à-dire qu'on veut faire disparaître les réalités, les manières d'être au monde, des Roms, des Sinti, des Mandous, des Gitans, des Yéniches et des voyageurs. Et ça, ça se passe en ce moment, notamment à travers un État qui, dès la fin de la guerre, va se féliciter des acquis en termes de sédentarisation permis par le génocide, par la politique d'internement, et qui depuis, va continuer et va systématiser une politique qui a notamment pour finalité de fixer sur le territoire, de sédentariser, et de faire en sorte que les gens soient contraints d'abandonner leur mode de vie. Pour celles et ceux qui, chez les personnes romanies et voyageuses, elles sont nombreuses, ont un mode de vie itinérant. Bon, ce qu'il importe de préciser, ce qui est quand même fondamentalement important, c'est que face à ces persécutions, chez nous, les gens, très tôt, ont mis en place des pratiques collectives de résistance extrêmement puissantes. En ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, les gens dans les camps d'internement et de concentration français, les voyageurs, les personnes romanies voyageuses ont été parmi celles qui se sont le plus évadées, mutinées, rebellées, etc. Pour vous citer le cas du grand résistant yéniche Raymond Durem, il s'est évadé à lui seul de près de 10 camps d'internement de concentration français et allemand. Et il y a tout un tas de scènes de mutinerie, de révolte et de résistance qui sont racontées dans l'ouvrage Les Nomades face à la guerre, 1939-1946, écrit par la chercheuse historienne et anthropologue Louise Foinon, aux éditions et critiques de la politique. Et elle démontre également qu'il y a eu un engagement extrêmement important des voyageurs et voyageuses, leurs familles, dans les maquis français pour la libération du pays. Ensuite, sur la deuxième question, l'antitsiganisme est effectivement dans l'angle mort global, politique, médiatique, historique et plus largement dans l'angle mort du fonds de la recherche.
Même militant.
Et militant, tout à fait, c'est très juste. Parce que c'est un racisme particulièrement, d'une part, banalisé, et aux effets extrêmement délétères et puissants, incontestés. C'est un racisme incontesté par la société, si ce n'est les voyageurs et les voyageuses qui s'organisent pour y résister, pour y faire face. Et quand je parlais du génocide tout à l'heure, il faut savoir que dès la fin de la guerre, les voyageurs ont mené un combat pour la reconnaissance des persécutions et du génocide dont ils avaient fait l'objet, dont ils ont subi. Sauf que face à ce combat, il y a eu un déni. Et nous, aujourd'hui encore, on est de nombreux voyageurs, voyageuses, à mener la lutte parce qu'on est conscient que tant que on ne reconnaîtra pas, on ne rendra pas dignité à nos morts, tant qu'on ne redonnera pas la juste valeur à nos morts, on ne peut espérer, il est vain et futile d'espérer que l'on respecte nos vies dans le temps présent, si on ne respecte pas nos morts. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a un continuum des persécutions antitsiganes à travers l'histoire, et il n'y a pas de rupture entre hier et aujourd'hui. On en est au même degré de persécution, c'est juste les formes qui ont changé. Et en réalité, très tôt dans l'histoire, la figure du tzigane, du nomade, aujourd'hui des gens du voyage, est une figure qui est agitée par l'État comme la figure de l'éternel étranger de l'intérieur, comme l'ennemi de l'intérieur, face auquel il faut faire corps, et qui constitue un modèle absolument répugnant pour l'État et les classes dominantes. Et c'est aussi un modèle subversif qui fait peur, parce que les manières d'être au monde romanie voyageuse sont antagonistes aux intérêts fondamentaux, si je peux le dire ainsi, de la nation et de l'État-nation même. Parce que on a une certaine autonomie politique, de manière de nous organiser collectivement autonome, une non-dépendance sur un certain nombre de plans à l'État qui inquiète ce dernier. Et donc, très concrètement, pour en revenir à des choses peut-être plus concrètes et moins abstraites, les gens, chez nous, meurent. C'est-à-dire que les gens paye de leur vie le racisme auquel ils font face. Alors, globalement, il faut savoir que l'espérance de vie des voyageurs et des voyageuses est de 15 à 20 ans inférieure au reste de la population nationale sur le territoire hexagonal. Simplement, ça s'explique par le fait en particulier que les voyageurs sont largement exposés au racisme environnemental. C'est-à-dire que l'État, délibérément, assigne à résidence, en campe, les voyageurs-voyageuses sur des aires d'accueil que je rebaptise aires inaccueillantes, et ce depuis les lois décembre 90 et 2000, et donc en choisissant délibérément de ne laisser d'autre choix aux gens que d'être sur ces lieux, et par ailleurs en positionnant ces lieux à côté de sites pollués et polluants, l'État choisit délibérément de faire mourir les gens précocement.
Ce terme-là, en fait, il a été un peu théorisé par des militants pour les droits civiques des communautés afro-américaines des États-Unis, qui se sont rendus compte que les lieux où ils vivaient, les quartiers où ils vivaient, étaient les lieux aussi les plus proches d'industries polluantes, etc. Et en fait, le concept de racisme environnemental est intéressant parce qu'il permet d'éclairer en fait les liens qui existent entre une position, une perception raciale dans la société et les nuisances environnementales, les inégalités environnementales qui nous touchent. Et ce terme-là, il a été réutilisé par le Bureau européen de l'environnement pour qualifier la situation des Roms en Europe de l'Est, qui vivent majoritairement dans des bidonvilles ou des quartiers qui sont pollués. Et en fait, je me disais, mais en fait, les aires d'accueil, c'est exactement ça. On a des lieux réservés à une partie minorisée de la population qui est stigmatisée. Ces lieux sont choisis par l'État, validés par l'État, choisis par les collectivités publiques, validés par l'État, et ils sont majoritairement pollués. Et quand je parle de racisme environnemental, je dis en fait qu'en France, quand on est gens du voyage, on a beaucoup plus de chances de se retrouver à vivre à côté d'espaces pollués que quand on est non gens du voyage.
Prenez l'exemple de l'aire inaccueillante d'Hélène Branchin, dans le nord de la France, dans la métropole lilloise, contre laquelle se bat le collectif d'Azovas, des femmes qui vivent notamment sur cette aire inaccueillante, qui se battent pour un relogement dans la dignité, cette place désignée, comme l'appellent les voyageurs, ce terrain désigné, il est situé entre une cimenterie, une concasserie, un site de production industrielle de la SNCF et des champs agricoles assaisonnés aux intrants chimiques. Et donc très concrètement, les gens meurent, dépassent rarement les plus de 50 ans, et les enfants en bas âge ont de manière assez systématique des maladies respiratoires assez graves. Et donc, Solène Demestre, qui est porte-parole de cette association d'Azovas, qui va tendre la main en romanesque, dit souvent ce que l'on vit ici, c'est la suite des camps de concentration. Et je trouve ça extrêmement juste et pertinent, dans la mesure où effectivement, l'État, malgré les alertes, parce que là, le collectif alerte depuis plus de 10 ans sur le fait que les gens crèvent à petit feu, eh bien, l'État conscient que les gens meurent les laisse mourir. Et donc l'État français, oui, préfère voir les voyageurs morts que vivants. Mais outre cette question du racisme gouvernemental, il y a évidemment le sujet majeur des crimes de la police et de la gendarmerie française à l'encontre des voyageurs et des voyageuses. C'est compliqué de faire une recension précise du nombre de crimes, mais j'y travaille en ce moment et bien d'autres y travaillent également, qui ont frappé les familles de voyageurs. Mais ils sont extrêmement nombreux. Ils ont des caractéristiques par ailleurs qui sont notables, à savoir le fait que comme les voyageurs souvent de fois vivent dans les zones rurales et périphériques, mais contrairement aux habitants des quartiers populaires, non pas la police qui la plupart du temps est autrice de ces crimes, mais la gendarmerie, des brigades de gendarmerie territoriale ou le GIGN, c'est quand même un groupe d'élite de la gendarmerie nationale, hein, d'élite entre guillemets, qui intervient en particulier testé depuis la mise en place d'antennes locales du VGM chez les familles de voyageurs. Et il s'avère même qu'un article, un journal de Libération avait alerté sur le fait que, en réalité, les interventions chez les voyageurs sont des sortes d'entraînement grandeur nature pour les antennes locales du GIGN.
Et ça rappelle également l'idée d'ennemis de l'intérieur.
Tout à fait.
Avec
à fait.
Les pratiques policières, un peu d'expérimentation, quoi.
Tout à fait, tout à fait. En tout état de cause, il y a beaucoup de gens chez nous qui se sont fait tuer par la police et la gendarmerie. La plupart du temps, de manière quasi systématique, ce sont in fine des non-lieux qui sont prononcés. Y compris, je pense notamment à Angelo Garan, qui s'est fait justement exécuter par des hommes du GIGN en 2017. Il faut savoir que sa sœur, Aurélie Garan, qui est une camarade, une amie, qui a écrit un livre que je vous invite et je vous recommande vraiment de lire, qui s'appelle « Depuis qu'ils nous ont fait ça », qui a été publié aux éditions du Bout de la Ville. Il faut savoir qu'elle raconte son combat dans ce livre. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, Aurélie n'a pas eu de véritable procès pour son frère, pour que la justice acte la vérité, à savoir l'exécution de son frère. Et dernièrement, la plus haute instance juridique à laquelle peuvent faire appel les familles qui se retrouvent dans cette situation, à savoir la Cour européenne des droits de l'homme, a prononcé un arrêt en 2024, si je ne vous dis pas de bêtises, dans lequel elle déclare qu'il n'y a pas eu de violation par l'État français de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir l'article 2 qui porte sur le droit à la vie. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme dit, en quelque sorte, à travers cette décision, qu'Angelo Garan, un voyageur de 37 ans, n'avait pas le droit à la vie, n'avait pas le droit de vivre. Et donc aujourd'hui, toutes les institutions, y compris celles qui prétendument protègent le plus les droits humains, déclarent d'un même élan que les voyageurs n'ont pas le droit de vivre, que nos vies ne valent pas, que nos vies ne comptent pas. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux et nombreuses à nous battre avec beaucoup de force, d'opiniâtreté et d'acharnement pour imposer le respect de nos vies à cette société dégagée qui écrase et qui broie nos vies. Et donc pour ça, on se bat, et on se bat avec autonomie et indépendance, parce que jusqu'alors, beaucoup ont voulu nous mettre sous tutelle, voulu mettre nos luttes sous tutelle, et notamment beaucoup de gadgets, ce qui n'est pas péjoratif, le terme gadget, c'est un terme romanais, c'est voyageur, qui signifie personne non romanie et non voyageuse, ont tendance à prendre nos places et nos voix, à usurper nos places et nos voix dans les luttes, notamment antiracistes. Et aujourd'hui, nous disons avec beaucoup de force que ces places-là nous reviennent et que la meilleure manière de combattre le racisme que l'on subit, c'est de mener nous-mêmes ce combat. Et c'est ce que l'on fait en étant extrêmement nombreux, alors notamment avec une collectif de jeunesse romanie voyageurs ZOR, ZOR qui signifie force en romanesque, mais encore avec un certain nombre d'autres collectifs. Je pense à l'association d'Azovas dont je vous ai parlé. Je pense également au collectif Vérité et Justice pour Angelo Garan. Et je pense à plein d'autres voyageurs qui, soit individuellement et collectivement, mènent de nombreuses luttes. Et en ce moment, on est nombreux à travailler à la coordination de ces luttes voyageuses et romanies. Et nous finirons par l'emporter, et nous finirons par transformer cette société. Parce que la meilleure manière de mettre fin à l'antiziganisme, pas juste de s'attaquer aux effets de ce racisme, mais c'est de saper les fondations de ce racisme, à savoir la domination de la société des gadgets. On va faire en sorte que nos manières de vivre et nos manières d'être soient non pas juste acceptées, mais deviennent des réalités parmi les autres réalités dans cette société.
D'ailleurs, Aurélie Garan fait partie du collectif ZOR. Donc tu l'as bien nommé, c'est un racisme en fait banalisé, accepté. Tu as fait le lien également entre les persécutions historiques des populations tziganes et les politiques actuelles. Il y a un racisme d'État, c'est pas juste des faits isolés, c'est bien quelque chose de systémique. Tu as évoqué les contrôles policiers, les difficultés aussi au droit, les expulsions. Qu'est-ce que ça dit de la place en fait qu'on vous accorde dans la société ?
La société nous marginalise, la société ne veut pas de nous, la société nous met au banc et la société ne veut surtout pas, et l'État en particulier, que l'on occupe une quelconque place. Nous sommes constamment mis à la marge. Quand je parlais de marginalisation, c'est que l'État nous met de manière systémique à la marge de la société, au banc de la société. Et on le voit avec la question des aires inaccueillantes, ouais. Où les voyageurs sont toujours au banc des communes, en périphérie, en plein milieu, au cœur des sites industriels pollués et polluants qui mettent en danger nos vies. Mais la réalité, c'est que nous ne demandons pas, en tout cas personnellement, je ne demande pas une quelconque place à cette société. Moi, je veux totalement défaire cette société qui est totalement excluante, cette société qui ne nous ressemble pas du tout, cette société dans laquelle la vie n'est pas du tout la vie à laquelle on aspire et simplement la vie qu'on mène chez nous, parce que on se retrouve pas du tout dans cette société dominante, dans laquelle d'ailleurs les gens sont malheureux. Nous, on a des manières de vivre qui sont bien différentes. On a des manières de s'inscrire dans l'espace, dont on a un rapport au temps qui sont diamétralement différents, et en fait c'est ce qui dérange l'État et la société dominante. Mais ce que je veux faire passer comme message aujourd'hui, c'est que nous sommes debout comme nous l'avons toujours été, comme nos ancêtres l'ont été avant nous, et ceux qui nous suivront seront debout avec encore plus de force, parce qu'en ce moment on construit du pouvoir au sens noble du terme, de l'autonomie collective, et on construit des espaces dans lesquels on s'organise et on fait respecter nos vies et nos manières d'être.
La lutte passe par l'organisation entre personnes concernées, notamment dans le collectif ZOR. Je sais que tu as publié également un ouvrage.
Tout à fait. J'ai publié donc il y a quelques jours maintenant, presque un mois, le 20 mars 2026, donc le mois dernier, un ouvrage qui s'appelle « Voleur de poules, combattre l'anti-racisme ».